Ok, on va reprendre, s'il vous plaît. Bon, alors évidemment, pour une raison qui m'échappe, le premier enregistrement de l'heure, la première heure, n'a pas fonctionné, donc je réessaye là. Donc globalement, on rentre dans le dur là, hein, et puis vous étiez tous présents sur le premier. A priori, là, ça va fonctionner, mais donc on aura un cours de moins sur les audios. J'espère que là, ça va marcher sur le deuxième. Donc, on attaquait le caractère général et abstrait dans un premier paragraphe, d'abord pour évoquer cette première caractéristique qui est quasiment systématiquement la caractéristique qui est présentée en premier quand on étudie la règle de droit. Vous trouvez aussi le terme impersonnel dans certains manuels, au lieu de parler de caractère général et abstrait, on vous parle du caractère impersonnel de la règle, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que ça signifie que ce double critère de généralité et d'abstraction? Ça veut dire que la règle de droit n'est pas spécifiquement conçue pour un individu en propre, pour un individu en particulier, mais qu'au contraire, elle est édictée, elle est créée pour tous, sans désigner personne expressément, nommément. Donc elle est bien générale, s'applique à l'ensemble des individus, donc elle est générale, et elle est abstraite, elle n'est pas concrètement pensée pour une personne ou plusieurs personnes nommément, elle revêt une forme d'abstraction au sens où elle est pour tous. Voilà. Et c'est ce qui lui confère son caractère abstrait. On se rappelle évidemment de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je vous ai reproduite sur la slide. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. C'est la même idée qui explique le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. En fait, tous les citoyens sont égaux devant la loi, donc ça veut dire que la loi est la même pour tous. Ça explique notamment quand vous consultez, par exemple, le code civil, mais ça marche pour tous les codes, pour toutes les sources de règles, que le vocabulaire est souvent très général quand il s'agit de définir ce qu'on appelle le destinataire de la règle de droit, c'est-à-dire celui auquel va s'appliquer la règle de droit. Quelques exemples comme ça, mais j'en prends deux, je pourrais en prendre des dizaines de milliers ou des centaines de milliers. L'article 6 du Code civil dispose que on ne peut déroger, c'est pas la peine de le noter, hein, notez juste le numéro de l'article, vous irez le chercher sur Légifrance. L'article 6 du Code civil vous dit qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. On reviendra sur cet article-là plus tard. De la même manière, l'article 9 du même code, donc toujours du Code civil, énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet article, de ces articles-là? Parce que la loi, pour désigner le destinataire de la règle, donc encore une fois celui auquel la règle s'applique, elle utilise des termes comme « on », donc l'article 6, « on ne peut déroger aux règles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », ou des termes comme « chacun », l'article 9 vous dit « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Si on traduit l'article 6, « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », ça veut dire, pour le tourner différemment, « personne » ne peut déroger aux règles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Aucun citoyen. Le « on » ici, c'est la généralité la plus absolue. De la même manière, le « chacun » de l'article 9, c'est tout le monde. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Pour le tourner différemment, tout le monde, tous les individus, chaque personne, chaque individu a droit au respect de sa vie privée. Donc ça veut dire que dans le vocabulaire même qui est employé dans la loi, on se rend compte, n'écrivez pas comme ça dans les copies, habillez-le, mais c'est pour l'expliquer là en amphi entre nous, on est tous logés à la même enseigne dans l'application du droit. Il n'y a pas de distinction qui s'opère parce que précisément, la caractéristique première de la règle de droit, c'est d'être générale et abstraite. Alors, ce serait trop simple si on s'arrêtait là, et évidemment, il y a des nuances à apporter à ce que je viens de vous dire. Il y a certains phénomènes qui sont propres au droit moderne, donc contemporain de ces dernières décennies, qui ont fait reculer un peu cette caractéristique de généralité et d'abstraction. C'est dû à un phénomène qui va être une espèce de fil rouge dans le cours qu'on va retrouver souvent, et qui est ce qu'on appelle le phénomène d'inflation législative. Comment est-ce qu'on peut vous résumer ça un peu aisément en début de cursus d'intro? En fait, on a l'impression aujourd'hui que dès que vous avez un problème particulier qui se présente, une nouvelle question qui se présente, hop, vite, il va falloir prendre un texte, adopter un texte, voter un texte pour régler précisément ce problème particulier et avoir un texte spécifique pour régler ce problème. Par définition, plus vous allez avoir de textes ponctuels, précis, pour régler une question spécifique qui parfois est vraiment une tête d'épingle, on va perdre la généralité de la règle. Elle ne disparaît pas, attention, le caractère général il existe toujours, mais il est en recul. La formule du doyen Ripper que je vous ai reproduite, elle me semble essentielle pour comprendre, là, ici, justement ce phénomène d'inflation législative. Donc là encore, vous l'aurez sur les slides, l'intérêt général sombre dans la satisfaction des intérêts particuliers. Alors on pense ce qu'on veut sur un terrain politique, si on raisonne juste par le prisme du droit, c'est vrai qu'on assiste à une espèce d'émiettement de la règle de droit qui devient de plus en plus spécifique, de plus en plus précise, avec ça de plus en plus technique, et qui a donc un champ d'application de plus en plus réduit. Et si le champ d'application est de plus en plus réduit, bah, le destinataire de la règle, par définition, est de plus en plus précisément identifié aussi. Donc vous allez avoir des règles, alors attention, des règles sur certains types de contrats, on en a toujours eu. À la naissance du code civil napoléonien dont on parlera tout à l'heure en 1804, vous avez déjà des dispositions, par exemple, propres au contrat de vente. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste des dispositions propres au contrat de vente. Vous allez avoir des dispositions qui s'appliquent à un contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur si ce contrat a été conclu sur une plateforme de vente en ligne. Par définition, si vous prenez cette règle-là, qui est un exemple hein, parmi d'autres, mais le destinataire, là, ce n'est pas n'importe quel individu. On a ciblé sur, on est dans un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur, dans un contrat en ligne. Donc le champ est forcément plus réduit que notre article 9 de tout à l'heure, chacun a droit au respect de sa vie privée. La disposition là, elle s'applique à nous tous, sans avoir à réfléchir à la situation dans laquelle on est, etc. On a tous le droit à notre respect à la vie privée. Le deuxième exemple que je vous ai donné là, ben, en fait, la règle, elle s'appliquera à nous que si un jour, alors ça nous arrive sans doute fréquemment, mais on se retrouve dans l'hypothèse où on a effectivement conclu un contrat de vente en ligne avec un pro. Donc vous voyez bien qu'en fait, le tissu se resserre. Et c'est ça le phénomène d'inflation législative. Plus il y a de règles, plus le champ des règles se réduit en fait. Si on prend une métaphore, ça c'est pareil, ne mettez pas dans les copies, mais c'est pour expliquer. En fait, le champ du droit, c'est comme une immense toile. Et à chaque fois, bah, la nouvelle règle précise, elle va venir colorier un petit bout de la toile. Donc, par définition, le champ se resserre aussi. Vous avez du droit partout. Alors, à ce stade-là, vous vous dites sûrement... qu'il n'y a plus de caractère général impersonnel. Non. Le caractère général abstrait impersonnel, il demeure. Ce qu'il faut retenir ici, à ce stade-là, c'est que la règle de droit, elle reste en principe générale, abstraite, impersonnelle, parce qu'elle ne vise jamais une personne en particulier. Elle s'adresse, elle a vocation à s'adresser à tous. Mais on constate avec l'essor du nombre de règles, l'essor des droits spéciaux. Aujourd'hui, il y a une multitude de droits spéciaux qui n'étaient pas identifiés comme tels il y a quelques années. C'est pour ça aussi que vos champs possibles de spécialisation sont beaucoup plus ouverts. Il y a beaucoup plus de choses qui existent parce qu'il y a eu de plus en plus de droits spéciaux. On a créé tellement de règles dans tous les domaines qu'on finit par faire émerger des blocs de droits. Voilà. Et vous avez du coup des spécialisations qui émergent partout. Donc, l'essor du nombre de règles, l'essor des droits spéciaux, fait que ce caractère général de la règle devient un peu plus relatif, parce parce que la règle s'applique aujourd'hui fréquemment à une catégorie plus limitée, plus déterminée de personnes. Donc on est toujours sur de l'abstraction, on ne vise pas nommément les individus évidemment, mais puisque la règle de droit se précise, bah, les destinataires de la règle se réduisent. Voilà. Et donc le caractère général recule un peu. L'autre point à identifier, c'est que ce caractère général et impersonnel, par ailleurs, il ne suffit pas à poser une définition de la règle de droit, c'est-à-dire à la saisir dans sa spécificité. Notamment parce que ce caractère général et impersonnel, il peut être partagé par d'autres types de règles. Si vous regardez, les règles morales, c'est un peu différent. Mais si vous regardez les règles religieuses, en fait, dans une même religion, alors, après, il y a des courants dans les religions, mais globalement, dans une même religion, toutes les personnes qui partagent la même croyance, qui suivent la même religion, qui se soumettent aux mêmes principes religieux, c'est les mêmes règles pour tous les co-religionnaires, en fait. Donc, cette idée, surtout avec l'inflation législative, de parfois la règle se réduire à un groupe plus identifié de destinataires, ben finalement, ça marche aussi pour les règles religieuses. Au sein d'une même communauté de croyants, la règle, elle est la même pour tous. Donc, elle est générale et abstraite, finalement, aussi, dans ce cas-là. Donc, le critère de la généralité et de l'abstraction, ce qu'il faut en retenir à ce stade-là, OK, il existe, mais il est en recul relatif avec l'inflation législative, et surtout, il ne nous permet pas d'isoler la règle de droit des autres types de règles, parce qu'il est partagé, au moins, ce caractère, par les règles religieuses, et même les règles morales. Hein. Alors, pas pour toutes, parce que la règle morale, c'est vraiment la conscience individuelle, donc, selon nos parcours de vie, selon nos convictions morales à tous, on se dictera des règles morales différentes, mais enfin, globalement, il y a un certain nombre de règles morales sur lesquelles on sera, j'espère, à peu près tous d'accord. Voilà. Donc, même sur la règle morale, ça peut se discuter. En tout cas, sur la règle religieuse, le caractère général et abstrait, c'est une certitude absolue. Donc il faut évoquer d'autres caractéristiques pour creuser la spécificité, de la règle de droit. Ça nous amène à un paragraphe 2, qui est cette fois relatif à la finalité sociale. La finalité sociale. Ce qui fait une règle de droit, c'est aussi sa raison d'être. Pourquoi est-ce que telle règle existe? Pourquoi est-ce que telle règle a été créée? Pour organiser la vie en société, on en revient toujours au même point. L'objectif de base, c'est ça. La règle de droit, c'est un lien dans le rapport à l'autre. Voilà. Comment est-ce que ça organise le rapport à l'autre? Pour reprendre notre exemple parallèle des règles morales et religieuses, a priori, la différence à première vue, en tout cas, elle est assez nette. Dans ces deux cas-là, la règle morale, la règle religieuse, la règle, elle serait focalisée sur l'individu, soit dans son rapport à sa conscience pour la règle morale, soit dans son rapport à sa croyance pour la règle religieuse. Mais donc, il y a un focus qui est sur l'individu. J'ai mes règles morales parce que ma conscience me les impose, j'ai mes règles religieuses parce que ma croyance me les dicte. Sur la règle de droit, on serait focalisé sur un rapport à l'autre. Par ailleurs, on sait, on y reviendra par la suite, mais vous savez que le droit en France, c'est pas le cas dans tous les systèmes juridiques, mais le droit en France, c'est ce qu'on appelle un droit laïque, c'est-à-dire que c'est un droit qui n'est pas dicté par des considérations religieuses. Pour autant, il y a certains moments où, dans l'histoire, évidemment, l'exclusion était un peu plus incertaine. Voilà. L'interdiction du divorce qui a existé pendant longtemps, vous le verrez sans doute quand vous ferez du droit de la famille. Alors aujourd'hui, ça paraît sidérant, mais l'interdiction du divorce, elle était certes dictée par une règle de droit, mais derrière la règle de droit, il y avait fatalement des considérations aussi qui étaient des considérations sans doute politiques, sociétales et aussi religieuses. Et pour le coup, à l'inverse, si on prend la vision par le prisme d'aujourd'hui, on a des règles de droit que la religion réprouve, que les religions réprouvent, voire que la morale réprouve. Vos règles morales à chacun, vos consciences personnelles peuvent être farouchement opposés au divorce. Possible. L'ensemble des religions, les grandes religions, sont opposées au divorce. Voilà. Et pour autant, on a aujourd'hui une règle de droit qui consacre la possibilité de divorcer. Vous avez même des règles qui ont facilité la procédure de divorce, etc. Donc parfois la règle de droit, la règle morale et la règle religieuse vont être dans le même sens. L'interdiction du meurtre, par exemple. A priori, toutes nos consciences, on va partir de ce principe-là en tout cas, toutes nos consciences personnelles nous dictent que le meurtre n'est pas envisageable. Les religions sont dans ce sens-là, et la règle de droit est très claire. Donc parfois elles ont le même contenu, parfois pas du tout. La règle de droit autorise le divorce, la règle morale, ça appartient à chacun, la règle religieuse, en tout état de cause, elle s'y oppose plutôt. Donc on serait sur une opposition comme ça. Vous organisez le rapport à vous-même sur la règle morale, la règle religieuse, et le rapport à l'autre dans la règle de droit. En fait, c'est pas si clair que ça. Et cette analyse à première vue, elle n'est pas si évidente que ça. D'abord, parce qu'effectivement, c'est ce que je vous dis, parfois elles ont le même contenu. Voilà. Les règles vont avoir des contenus similaires, interdiction du meurtre, interdiction du viol, etc. Ensuite, parce que les règles morales et les règles religieuses, en fait, elles influent sur le rapport à l'autre. La façon dont votre conscience vous dicte un comportement, c'est en fait... Ok, ça naît dans votre conscience propre, mais ça a vocation à avoir une influence sur le rapport à l'autre. Est-ce que votre conscience vous dicte une idée de fraternité, une idée d'entraide quand vous allez tomber sur quelqu'un qui a besoin d'aide dans la rue? Par définition, ça influe quand même énormément sur le rapport à l'autre. Et les règles religieuses, c'est pareil. En fait, les règles religieuses, elles s'entendent dans un rapport à sa propre croyance, mais aussi dans un rapport à l'autre. Donc, cette idée de d'un côté c'est le rapport à soi, de l'autre c'est le rapport à l'autre, bof. Et en fait, assez souvent, la finalité sociale, elle va exister dans les trois corps de règles. La règle de droit, la règle morale, la règle religieuse. Cette finalité sociale-là, donc encore une fois, cette idée que la règle existe dans un rapport à autrui, vous la trouvez dans les trois corpus de règles. Plus encore que ça, parfois la règle de droit, elle est guidée par des considérations de morale aussi, ce qu'on appelle l'équité. Un exemple. Auparavant, et je ne parle pas d'une époque extrêmement ancienne, on faisait une distinction très claire, notamment en droit des successions, donc par rapport à ce qu'il était possible d'hériter, etc., on faisait une différence très claire entre ce qu'on appelait à ce moment-là, la distinction n'existe plus, mais ce qu'on appelait à ce moment-là les enfants légitimes et les enfants naturels. C'est-à-dire, pour les enfants légitimes, les enfants nés dans les liens du mariage, et les enfants naturels, les enfants nés hors mariage. Et on traitait moins bien les enfants naturels que les enfants légitimes. Aujourd'hui, pour des raisons d'équité, d'égalité entre les enfants, ça nous paraît incroyable comme règle. La société a évolué, la perception de l'équité a évolué, donc on a fait changer la règle, et on a, vous le verrez en droit de la famille au second semestre, on a supprimé la distinction enfant naturel, enfant légitime. Et il y a plein d'exemples comme ça. Vous verrez en TD, pour le coup, l'évolution de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de justice, et au premier titre des décisions de la Cour de cassation, sur comment vous résumez ça rapidement. Les conventions qui étaient conclues dans des relations adultères. Alors, dans les exemples jurisprudentiels qu'on a, c'était monsieur qui avait une relation adultère et qui donnait une certaine somme d'argent à la personne avec qui il avait sa relation adultère. Pendant très longtemps, la Cour de cassation a dit que ces conventions, donc ces contrats-là de donation, étaient nuls car contraire aux bonnes mœurs. On considérait que le fait de donner de l'argent dans le cadre d'une relation adultère était contraire aux bonnes mœurs par rapport à l'idée qu'il fallait se faire du mariage. C'est plus le cas aujourd'hui. Les conventions sont plus nulles parce que la vision qu'on a du mariage a bougé un peu et qu'on considère qu'il n'y a plus lieu d'annuler ce type de donation-là. Vous approfondirez en TD, mais c'est pour vous donner une idée aussi de la façon dont les solutions peuvent évoluer. Et puis, le dernier point, avoir à l'idée sur les liens et sur la finalité sociale de la règle de droit et des autres règles. Sans doute l'exemple le plus parlant, c'est le cas de l'obligation naturelle. Ça aussi, vous avez traité en TD, j'en dis quelques mots ici. L'obligation naturelle, c'est une obligation morale. En conscience, dans votre conscience, vous vous sentez tenu d'une obligation. Et cette obligation, précisément, elle n'existe que dans votre conscience. Elle ne vous est pas imposée par le droit. Vous vous sentez obligé, l'expression là marche très bien, vous vous sentez obligé de. Exemple. Vous avez un frère ou une sœur qui rencontre des difficultés financières immenses. Vous vous sentez obligé de l'aider. Votre conscience vous dit de l'aider. Aucune règle de droit n'impose ce qu'on appelle une obligation de secours et d'assistance entre les membres d'une fratrie. Ça existe pour les parents à l'égard des enfants, dans la loi. Ça existe pour les enfants à l'égard des parents, dans la loi. Dans une fratrie, ça n'existe pas. Vous n'avez aucune obligation légale d'aider vos frères ou vos sœurs. Nulle part. Mais vous pouvez vous sentir tenu de ce secours en conscience. Ok, j'ai pas de règle de droit qui me l'impose, mais moi, je me sens obligée. Ma conscience me dicte que c'est la chose bien à faire. Et donc, vous allez vous engager à aider votre frère ou votre sœur. Vous allez envoyer un SMS, vous avez laissé un vocal sur WhatsApp en disant bah, « À partir de maintenant, jusqu'à ce que ta situation aille mieux, je te donnerai 200-300 euros par mois à hauteur de mes moyens. » En faisant ça, vous avez extériorisé une obligation qui n'était jusque-là que morale et vous l'avez transformée en obligation juridique. C'est-à-dire que vous avez souscrit un engagement. Si votre frère, si vous, j'en sais rien, vous vous disputez et puis vous vous dites finalement qu'il se débrouille ou qu'elle se débrouille, j'en ai marre, il ou elle est en capacité de saisir un juge pour faire exécuter une obligation que vous avez transformée en obligation juridique en l'extériorisant. C'est ça, ce qu'on appelle la novation, la transformation de l'obligation naturelle. Une obligation qui n'était que morale et qui, parce qu'elle est extériorisée, alors après tout sera question, on en parlera par la suite, mais tout sera question des modalités de preuve. Il appartiendra à votre frère ou à votre sœur de prouver que vous vous êtes engagé. Est-ce qu'il ou elle peut fournir le vocal que vous avez laissé, le texto que vous avez laissé? Est-ce que vous avez été enregistré quand vous avez parlé? Alors là, ce sera des questions de loyauté de la preuve à rapporter, mais ça se discute. Il y a des modes de preuve, mais en tout état de cause, si il ou elle est en capacité de prouver cet engagement-là, on pourra vous forcer à l'exécution. Voilà. J'ai pris cet exemple-là entre frères et sœurs, mais il y a d'autres exemples que vous verrez, notamment en TD, de l'obligation naturelle et de sa transformation en obligation juridique. Donc vous voyez finalement, à ce stade, alors d'abord on sait plusieurs choses, mais on voit surtout avec ce cas de l'obligation naturelle que parfois, la frontière, elle est ténue aussi. La règle de droit, elle entretient des rapports, alors moins, surtout maintenant, avec la règle religieuse, le distinguo est plus net, encore que sur certaines questions, on peut se poser la question aussi, mais le distinguo est moins net. Avec la règle morale, il y a beaucoup de choses qui sont dictées, alors on appelle ça de l'équité, mais il y a beaucoup de règles qui sont dictées par une approche morale aussi de justice de la règle de droit, une recherche d'un idéal de justice. Et très souvent, en fait, ça se combine assez facilement avec la règle de droit. Donc, qu'est-ce qu'on sait à ce stade-là? Si je résume, on sait que la règle de droit, elle est générale et abstraite, même si ce caractère est moins net aujourd'hui, mais que pour autant, cette caractéristique, elle est partagée au moins par la règle religieuse. On a expliqué pourquoi la règle religieuse était générale ou abstraite. Ensuite, on sait que la règle de droit a une finalité sociale, parce qu'elle organise, elle a vocation à organiser le rapport des individus dans une société et donc le rapport à l'autre. Là encore, on pouvait penser a priori que ça allait nous permettre de distinguer avec la règle morale ou religieuse, mais finalement, on voit bien que les règles morales et religieuses aussi, elles ont des finalités sociales et que donc ça ne permet pas de distinguer la règle de droit de la règle morale ou de la règle religieuse. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Qui est paumé? Qui n'ose pas dire qu'il est paumé? Je précise là-dessus aussi. Autant il y a des trucs où je me froisse quand ça bavarde, etc. Ça va m'arriver de ne pas être clair. Voilà. Si vous êtes paumé, dites-moi. Je fais des petits sondages comme ça à main levée, souvent dans le cours, sans doute quand ça devient un peu plus technique, etc. Je ne le fais pas en attendant de vous que vous me répondiez tous. Non, c'est limpide, on suit tous. Si je vous demande, c'est que j'identifie très bien le risque que ce ne soit pas clair. Sentez-vous libre de dire que ce n'est pas clair. Et ça, pour le coup, s'il faut que je réexplique 10 fois, je réexplique 10 fois, j'ai aucun problème avec ça. Encore une fois, c'est mon job. Je suis là pour faire en sorte que vous compreniez. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est aussi sans doute lié au fait que je me suis mal exprimée. Donc, je réexplique. Donc, quand je fais ces sondages-là, dites-moi si vous êtes paumé. Évidemment, je ne vous prends pas mal du tout, au contraire. On passe du coup au troisième caractère, qui est le caractère extérieur. Ça fait l'objet d'un paragraphe 3. Paragraphe 3, le caractère extérieur. Je vais rentrer dans le détail, ici, de l'affirmation, mais pour faire simple, pour commencer, si vous voulez, voilà comment on peut présenter les choses. La règle de droit, elle s'impose à l'individu, indépendamment de sa volonté propre. Elle s'impose à l'individu indépendamment de sa volonté, ça veut dire que ce n'est pas l'individu qui décide de suivre la règle, ce n'est pas l'individu qui, de manière plus tranchée encore, construit la règle. La règle, elle s'impose à lui, elle lui préexiste, elle existe avant sa volonté. Que ce soit d'ailleurs une règle de sanction ou une règle de protection, ça ne change strictement rien à l'affaire. La règle de droit est extérieure à l'individu et elle organise ses rapports sociaux. Ça ne veut pas dire que votre volonté individuelle est sans incidence aucune, mais on va voir que cette incidence, elle est relative. Le premier exemple que vous pourriez avoir à l'esprit, c'est l'exemple en quelque sorte le plus roublard finalement, ce serait de vous dire, en fait, vous êtes tous majeurs dans l'amphi? Non? Vous êtes de quelle année? Je me perds à chaque fois. 2006. Le cours d'intro pour ça, c'est... rigolez pas, le cours d'intro pour ça, c'est... Donc, ça me fait perdre mon fil. Vous êtes presque tous majeurs, je parle de ce point-là. Vous exercez un droit de vote, ou vous allez exercer un droit de vote. En exerçant un droit de vote, si on fait une lecture un peu, on va voir qu'elle est un peu rapide, mais on peut se dire que finalement, la volonté que vous manifestez en exerçant votre droit de vote, elle influe sur la loi. Quand vous votez pour... Alors après, il faut voir si c'est pris en compte dans les constitutions de gouvernement, mais là, je laisse mon collègue constitutionnaliste prendre le relais là-dessus. Quand vous allez voter pour le nouveau Front populaire ou pour les Républicains, la coloration que vous voulez donner à la règle de droit, c'est pas la même, hein. Ce que vous attendez du contenu de la règle de droit en exprimant votre vote, par essence, c'est différent. Donc on pourrait se dire, attendez, du coup, ma volonté, elle a une incidence. J'ai une incidence sur le contenu de la loi. Relative. C'est-à-dire que, ok, vous exercez un droit de vote dans l'espoir que ça colore différemment une règle de droit. Le fait est que, une fois que, si on prend l'exemple des légistes, par exemple, une fois que l'Assemblée nationale est constituée, quel que soit le vote que vous avez émis, vous serez tenu au respect de la règle de droit. Que ce soit votre parti ou pas qui l'ait emporté, les règles qui seront adoptées par l'Assemblée, elles s'appliqueront à tout le monde, indistinctement de vos idées politiques. Donc cette idée-là que le vote influe sur la règle de droit, oui, de manière extrêmement marginale. Voilà. Vous pouvez espérer que votre vote, c'est le but évidemment, hein, c'est pour ça qu'il faut voter, mais que votre vote aura une incidence sur le contenu de la loi. Ceci étant dit, une fois que le Parlement est là, il vote ses lois, et indépendamment de nos idées politiques à tous, on est tenu par les règles de droit qui sont émises par le Parlement et donc notamment par l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était le premier exemple pour essayer de dire que c'est pas forcément indépendamment de la volonté de l'individu. On voit bien que ça tient modérément. L'autre exemple, qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans le cours, je laisse de côté, mais vous verrez que le cours d'intro, il a ça d'intéressant aussi, que il est un peu cyclique. C'est-à-dire que certaines notions que vous allez rencontrer ici vont s'éclairer plus tard par d'autres éléments qu'on va donner. C'est normal, ça fonctionne comme ça, mais donc il faut attendre aussi certains éléments qui arrivent par la suite. Exemple, avec ce qu'on appelle la coutume et les usages. On verra dans le chapitre sur les sources, quand on verra la coutume en tant que source complémentaire du droit, on verra que la coutume, elle a ça de particulier que c'est une pratique sociale qui se développe tellement qu'elle devient habituelle et qu'elle devient habituelle au point de se transformer en règle de droit. C'est ça la coutume. Une pratique qui s'ancre tellement dans la société qu'elle se transforme en règle de droit. Et donc là aussi, on pourrait se dire, finalement, sur la coutume, du coup, ma volonté individuelle d'avoir suivi cette pratique sociale, elle a eu une influence sur la règle de droit. J'ai contribué à la création de la coutume en me pliant à cette pratique habituelle. Oui, là encore, très marginalement, la coutume, on le verra par la suite, elle ne devient règle de droit que parce qu'en fait, elle est une pratique qui est suivie par tous dans un environnement social ou géographique donné, et que c'est ce tous, c'est cette multitude de personnes qui se plient à cette pratique qui lui donne derrière sa qualité de règle de droit. Donc vous, là encore une fois, votre volonté individuelle, elle a finalement une incidence toute relative, pris en tant qu'individu isolément, elle a une incidence relative sur la reconnaissance de la coutume comme règle de droit. Et puis il y a une dernière hypothèse, que là encore on va retrouver, dont on parlera sûrement déjà tout à l'heure, mais qui est une hypothèse un peu particulière. Il existe des cas marginaux, mais des cas dans lesquels, l'application de la règle de droit peut n'être qu'optionnelle. C'est ce qu'on appelle les règles supplétives de volonté. Donc, quand la règle s'applique à tous, on parle de règles impératives. Quand c'est des règles dont on peut choisir ou non l'application, alors on parle de règles supplétives de volonté. Qu'est-ce que c'est qu'une règle supplétive de volonté ? C'est la règle où la loi propose à l'individu une règle et cet individu va décider ou pas d'en faire application. Je vous donnerai un exemple dans quelques instants. Donc là, on est tenté de dire qu'il y a bien une règle interne, que la règle n'est pas extérieure à l'individu. Par définition, c'est l'individu qui va décider s'il peut se prévaloir de la règle ou pas. Donc c'est bien que c'est pas une règle extérieure, en tout cas c'est la vision qu'on pourrait avoir. Sauf que là encore, c'est une vision tronquée. Dans la règle supplétive de volonté, l'individu il va décider s'il se prévaut ou pas de la règle. Mais il n'en détermine pas le contenu. La règle, elle lui demeure bien extérieure. Et non seulement il n'en détermine pas le contenu, mais s'il n'exprime pas de volonté différente, alors la règle s'appliquera telle qu'elle. Le législateur ne laisse dans cette hypothèse-là qu'une option. Je peux choisir de faire différemment, mais c'est dans les clous qui sont laissés possibles par le législateur. Et en tout état de cause, même sur les règles optionnelles, vous ne décidez pas du contenu de la règle elle-même. Donc, ça veut dire que quelle que soit l'hypothèse, même dans ces cas spécifiques-là, la volonté individuelle se voit imposer la règle de droit. Est-ce que c'est le cas aussi pour les règles morales et religieuses ? Si on continue notre distinguo à opérer, est-ce que pour la règle morale et religieuse, on trouve ce caractère extérieur ? Alors, pour la règle morale, a priori, la différence, elle est évidente. On le dit depuis tout à l'heure. La règle morale, c'est la conscience personnelle. La conscience, vraiment, ce qui fait de vous votre spécificité en tant qu'individu. Et la morale, elle se construit, encore une fois, par des parcours de vie, par des obstacles rencontrés, par un environnement familial, amical, etc. C'est plein de choses, une morale qui se construit. Donc a priori, par définition, la conscience personnelle, elle est interne. Une conscience individuelle, elle ne peut être qu'interne. Ce qui explique que sur certaines valeurs morales, on va se rejoindre, et puis sur certaines valeurs morales, on aura des approches différentes. C'est normal, parce que les règles morales sont par essence des règles internes. Par la morale, vous vous créez votre propre loi à vous, voilà, qui n'est pas une règle de droit, mais qui est une loi morale, en quelque sorte. Donc, pour la règle morale, effectivement, le caractère extérieur, il permet bien de dégager, de distinguer la règle de droit. La règle de droit a un caractère extérieur que la règle morale n'a pas. Voilà. Pour la règle religieuse, bah, c'est un peu différent, pour le coup. Et la règle religieuse, elle est extérieure. Vous choisissez ou non de croire, encore que, là on se lancerait dans un débat qui est presque philosophique et qui échappe pleinement à ma compétence, mais est-ce qu'on peut dire qu'on choisit de croire? C'est un débat, en tout cas, bon, on le pose comme ça sur des termes juridiques, mais même là, la frontière n'est pas évidente. Ok, vous choisissez de croire, vous croyez en une puissance supérieure, mais les règles qui découlent de cette croyance, vous ne les choisissez pas. Elles ne se créent pas dans votre esprit. Parce que vous êtes croyant, vous vous soumettez à des règles, mais des règles qui vous sont extérieures, qui viennent des textes religieux, le cas échéant des interprétations qui sont faites de ces textes par des autorités religieuses, mais vous ne les créez pas vous-même, ces règles-là. Donc elles sont extérieures. Donc pour le coup, le caractère extérieur, il nous permet de faire un distinguo avec la règle morale, mais pas avec la règle religieuse. La règle religieuse aussi, elle est bien extérieure. Donc on a franchi quand même une étape supplémentaire, parce que ce caractère extérieur, il a permis de distinguer une fois de plus avec la règle morale, mais on a toujours une difficulté de distinction avec la règle religieuse. Pour évacuer cette difficulté de distinction et donc poser pleinement la spécificité de la règle de droit par rapport aux autres types de règles, et notamment aux règles religieuses, il nous reste à évoquer, et ça fait l'objet d'une section 2, la force contraignante de la règle. Section 2, la force contraignante de la règle. La spécificité de la règle de droit, ce qui lui confère son efficacité, c'est son caractère contraignant. Vous trouvez également le terme de caractère coercitif. Vous les employez comme synonymes ici. C'est ce caractère-là qui permet d'isoler la règle de droit des autres formes de règles possibles. La règle de droit, c'est la règle dont le non-respect est sanctionné. Il y a une alarme dehors, c'est moi? Non, c'est moi. On a un sifflement, mais non, parce que parfois on a le coup des vérifications d'alarme, il faut que tout le monde sorte, c'est pour ça que je vous demande. La règle de droit, c'est la règle dont le non-respect est sanctionné par l'État. Et c'est ce critère-là qui est décisif. C'est ce qu'on appelle la coercition étatique, c'est-à-dire le pouvoir de contrainte assumé par l'État, par la puissance publique. Donc on va d'abord définir ce caractère contraignant et après on essaiera de comprendre ce qui le justifie, ce qui fait sa justification. Donc d'abord un paragraphe 1 sur la définition. Encore une fois, le caractère contraignant, ça signifie que l'État rend obligatoire la règle de droit et que, si besoin est, le cas échéant, il assure la sanction du non-respect de la règle. Ça va en deux temps. Il pose l'obligation, le caractère obligatoire, contraignant, et il assortit ce caractère contraignant, obligatoire, d'une sanction en cas de non-respect. Voilà. Donc les deux, en fait, sont très liés. Le caractère obligatoire et la sanction fonctionnent de pair. Donc d'abord, quelques mots sur le caractère obligatoire. Quand l'État consacre une règle de droit, en fait, il fait le choix d'imposer aux citoyens le contenu de la règle en question. C'est l'État qui décide du caractère coercitif, du caractère obligatoire de la règle. Parfois, l'État va adopter des règles de droit pour rendre une situation obligatoire, alors que cette situation, elle nous apparaissait presque plus comme, j'en sais rien moi, presque une règle morale. On parlait tout à l'heure du devoir de secours, d'assistance. Vous avez une obligation de secours et d'assistance dans le mariage. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. Donc s'il y en a un qui rencontre une difficulté, notamment d'ordre financier, l'autre a l'obligation légale de le soutenir. On pourrait dire que c'est une obligation morale. Alors c'est une obligation morale, mais pas que. C'est aussi une obligation légale. Et puis parfois, le droit va traduire aussi en règle de droit, l'État va traduire en règle de droit, pardon, ce qui nous apparaît plus, au moins originairement, comme une règle religieuse. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, mais originairement, le mariage et la vision du mariage dans le droit, elle était quand même innervée d'une vision religieuse. Et je vous dis, on faisait le distinguo entre les enfants nés dans le mariage et hors mariage. Il y avait une vision du mariage qui avait une connotation qui était parfois un peu religieuse et qui perdure d'ailleurs à certains égards. Hein. Vous ferez ça en droit de la famille au second semestre. Mais l'obligation de fidélité, notamment, elle a aussi des origines religieuses. Et elle est consacrée dans le code civil. Bref, en réalité, ce qui change tout, c'est, si on veut résumer, c'est la volonté de l'État de traduire une règle en règle de droit. Qu'est-ce qui, pour l'État, mérite d'être une règle de droit sanctionnée comme telle, appliquée comme telle? Parce qu'encore une fois, si on veut réfléchir, la contrainte, la notion de caractère obligatoire, existe pour toutes les règles. Le croyant, si on prend la règle religieuse, le croyant, il respecte sa règle religieuse, notamment parce qu'il croit en la puissance supérieure qui pourrait sanctionner le cas échéant. Il y a une notion de contrainte. Vous ne la respectez pas pour rien, on ne la respecte pas pour rien, la règle religieuse. Elle est respectée parce qu'on croit en la possibilité, appelez ça comme vous voulez, d'une sanction, d'un châtiment, etc., qui aurait évidemment une autre origine, mais qui existe. Et de la même manière sur la règle morale. Regardez tout à l'heure quand on parlait des obligations naturelles, je vous disais, entre frères et sœurs, il n'y a pas d'obligation légale, mais on se sent obligé. La contrainte morale, elle existe aussi. C'est toutes les expressions, ne mettez pas ça dans les copies, mais là encore, c'est pour expliciter. Dire je ne pourrais pas me regarder dans une glace, etc. Vous créez votre propre source d'obligation. Votre conscience va générer dans votre esprit une contrainte. La différence, que ce soit pour le caractère religieux, pour la règle religieuse ou la règle morale, c'est que ce caractère d'obligation ne vient pas de l'État. Pour le respect de la règle religieuse comme pour le respect de la règle morale, ce n'est pas l'État qui vous contraint. Il n'y a que pour la règle de droit que la contrainte provient de l'État. Donc en fait, vous voyez, il faut même préciser, ce n'est pas la force contraignante en réalité qui fait la spécificité de la règle de droit. C'est la force contraignante imposée par l'État. Parce que la force contraignante, encore une fois, je la trouvais aussi dans les deux catégories de règles. Mais ce n'est pas la puissance publique qui vous l'impose. C'est votre croyance ou votre conscience. Donc, à ce stade-là, on sait effectivement que la force contraignante émane de la puissance étatique. Pour que la vie en société s'organise au mieux, sereinement, il faut que les règles soient obligatoirement respectées. Mais on va rencontrer une difficulté quand même. Et on retrouve ici ce que j'évoquais. Je reviens sur la slide juste pour que vous fassiez le lien. Voilà. La deuxième flèche, le cas de la règle supplétive de volonté. Je vous ai dit tout à l'heure, on en parle dans quelques instants, et bien on y est. Dans l'absolu, il n'est pas tellement surprenant qu'on affirme le caractère obligatoire des règles de droit. Encore une fois, on disait à l'instant, le droit objectif, les règles de droit, le droit, il a vocation à organiser la vie en société, les rapports sociaux. Pour que cette organisation soit efficace, effective, le respect des règles ne peut pas être une option. À moins de vivre dans une utopie, il y a un moment où ce qui rend la règle efficace aussi, c'est la peur de la censure. Ce qui fait que la vie en société se passe globalement bien, c'est aussi, souvent, la conscience du fait que si on franchit une ligne, il y a une sanction. Et d'ailleurs, je peux faire un lien là avec ce qu'on évoquait dans l'intro à l'intro. Quand on a fait le sondage à main levée là tout à l'heure sur le qui a déjà streamé, etc. Qui a déjà vraiment eu peur de la sanction ? Ben voilà. C'est ça aussi. Et pourtant, vous êtes des juristes. Et je devrais couper le micro et a fortiori l'enregistrement, mais si je suis complètement honnête, je devrais lever la main aussi, alors que je suis spécialiste de droit d'auteur. Donc c'est pas pour vous coincer. Mais je suis un tout petit peu honnête. C'est pas pour vous coincer, mais c'est simplement pour vous dire que, y compris dans un environnement qui fait du droit pour moi, parce que je suis beaucoup plus vieille que vous, ou se destine à faire du droit, oui, évidemment, le spectre de la sanction a une influence sur les comportements. Et quand on sait que sur certains comportements, bon, la sanction finalement, alors déjà on ne risque pas grand-chose parce qu'on connaît les techniques de contournement, etc. Même dans un amphithéâtre de droit, la très grande majorité des étudiants et moi ont levé la main. Donc c'est pour vous dire aussi l'importance de la sanction, de la conscience de la sanction et parfois de l'intensité de la sanction aussi. Ce qui pose une question, du moins. Est-ce que toutes les règles de droit sont obligatoires ou seulement les règles impératives ? On a évoqué il y a quelques instants le fait qu'il y avait deux catégories de règles de droit. Ce qu'on appelle les règles impératives, elles s'imposent à vous sans aucune place pour votre volonté individuelle. Et puis, de l'autre côté, les règles supplétives de volonté, où là, votre volonté individuelle peut décider de neutraliser l'application. Du coup, la question toute bête que je me pose, c'est ce caractère obligatoire, est-ce qu'il existe pour toutes les règles, ou est-ce que ne sont obligatoires que les règles impératives ? Ce qui voudrait dire, à contrario, que les règles supplétives, elles, ne sont pas obligatoires. Alors, c'est une problématique un peu difficile à saisir. On va essayer de résumer la situation pour que ce soit un peu plus clair. Sur les règles supplétives de volonté, l'individu, la personne, peut manifester sa volonté pour exclure, pour écarter l'application d'une règle de droit. En d'autres termes, ça veut dire que la règle supplétive de volonté ne s'applique que si elle n'a pas été écartée par l'individu. Si elle a été écartée, elle ne s'applique pas. Si elle n'a pas été écartée, elle s'applique. C'est pour ça qu'on appelle ça une règle supplétive de volonté. C'est parce qu'elle supplée, elle prend le relais de la volonté individuelle si cette volonté individuelle ne s'est pas exprimée. Je dis ça de manière métaphorique en amphi, ça ne se met pas dans les copies, mais là encore, c'est pour faire comprendre. Une règle supplétive de volonté, c'est une espèce de parachute. Elle est là si vous n'avez pas exprimé de volonté différente. Voilà. Elle fait office de prise de relais si vous ne vous êtes pas exprimé différemment. Je prends un exemple pour que vous compreniez de quoi on parle. Ne notez pas le contenu des articles, vous irez les récupérer sur Légifrance en ligne. Si vous regardez l'article 1651 du Code civil, qui est un article sur les obligations de l'acheteur dans le contrat de vente, 1651. L'article vous dit, encore une fois, ne notez pas, vous irez rechercher derrière, « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. » Dans le temps où doit se faire la délivrance. Ça signifie que si les deux parties au contrat, dans un contrat de vente, les deux parties au contrat, c'est l'acheteur et le vendeur. Si les deux parties au contrat n'ont pas prévu une autre solution, alors l'acheteur devra payer le prix au moment et à l'endroit où intervient la remise du bien. À l'inverse, ça veut dire que les parties peuvent décider, grâce à leur volonté individuelle, de faire intervenir le paiement à un autre moment ou dans un autre lieu. Si on reprend 1651, il vous dit bien s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente. Ça veut dire si on n'a rien décidé différemment au moment de la conclusion du contrat, alors l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Donc ça veut dire que les parties peuvent décider que le paiement n'interviendra pas au lieu et dans le temps où se fait la délivrance, mais 3 jours après, 3 jours avant, etc. C'est bien une règle supplétive de volonté. Vous pouvez décider que le moment et le lieu du paiement ne seront pas le moment et le lieu identifiés dans la loi. Ok. Ça nous oblige à nous poser une question. Est-ce que toutes les règles de droit sont obligatoires ou seulement les règles supplétives ? Là, on voit bien dans l'exemple qu'on vient d'évoquer ici que c'est moins évident. Est-ce que l'article 1651, il est obligatoire ? Il faut chasser le doute dès maintenant. Toutes les règles sont obligatoires. Toutes les règles de droit, évidemment, sont obligatoires, y compris les règles supplétives. En fait, les règles supplétives, elles vous laissent une marge de manœuvre. Mais par exemple, le paiement, si on garde notre exemple, le paiement lui-même, il est obligatoire pour avoir un contrat de vente. Sinon, c'est un autre type de contrat. C'est un don, c'est un prêt, mais sinon, il faut un paiement du prix. Simplement, le législateur vous laisse un petit interstice pour décider de certains éléments. Le lieu, le moment. Mais dans l'absolu, la volonté, d'abord, elle ne peut s'exprimer, c'est ce que je vous ai mis sur la slide, que parce que la règle le permet. La place de la volonté individuelle n'existe que parce que le législateur la reconnaît. Si vous reprenez 1651 et que vous enlevez le « s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente », donc la première partie de l'article qui rend la règle supplétive, alors l'article, ça devient « l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Et là, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc ça veut dire que votre marge de manœuvre sur la volonté individuelle, elle n'existe que parce que le législateur a bien voulu vous la donner. Donc finalement, la règle reste obligatoire et vous ne pouvez intervenir que dans le petit interstice que vous laisse le législateur. Et par ailleurs, encore pardon pour la redondance, mais ça aide à comprendre aussi, si on reprend le début de 1651, s'il n'a rien été réglé à cet égard de l'ordre de la vente, on retrouve notre idée de parachute. Si les parties ont rien prévu, alors le paiement doit se faire au lieu et dans le temps de la remise du bien. Et vous n'avez plus le choix. Si vous n'avez rien réglé au moment de la vente, alors la règle est pleinement obligatoire. Donc, ça veut dire que effectivement, la question peut se poser un peu de l'intensité de l'obligation dans les règles supplétives. Peut-être qu'elle est moindre un peu. Effectivement, la règle supplétive, elle laisse une marge de manœuvre. Pour autant, le caractère obligatoire existe bien, y compris pour elle. Ce qu'il faut retenir ici, qui est paumé là sur la différence impérative-supplétive ? Pour qui est-ce que ça va ? Ok. Ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est que toutes les règles de droit sont dotés d'un caractère obligatoire consacré par l'État, par la puissance publique. Que ces règles soient impératives ou supplétives, elles sont toutes dotées d'une force obligatoire. Cette force obligatoire étant éventuellement un peu malléable quand il s'agit des règles supplétives. Voilà. Il y a une intensité qui diffère un peu, mais le caractère obligatoire, il est là, de toute façon. Il est, si vous voulez trancher un peu le truc, il est absolu pour les règles impératives, il est un peu plus souple dans la règle supplétive, puisque précisément il laisse une petite place à la volonté individuelle. Mais il existe toujours. Si vous avez une règle de droit, c'est qu'elle présente un caractère obligatoire, quelle que soit la nature de cette règle. Dernière petite question avant de faire une pause. Comment est-ce que moi, l'étudiant en première année, je sais si c'est une règle impérative ou supplétive? Eh bien, vous faites gaffe à ce que vous lisez. Encore une fois, le législateur vous le dit. Vous aurez toujours des formules comme dans 1651. S'il n'a rien été décidé autrement, si les parties n'ont pas souhaité, etc. Faites attention à ce que vous lisez. S'il y a... Vous allez voir que j'ai là-dessus aussi, j'ai mes marottes et que je donne des conseils que j'espère vous garder après le cours d'intro, mais sur ce qu'il faut faire et pas faire pour s'en sortir. Un conseil de premier cours, première année, faites attention à ce que vous lisez. Très souvent, vous lisez trop vite, et comme vous lisez trop vite, vous lisez mal. En droit, on en aura des exemples, notamment dans le cours d'intro, parfois, un mot dans une disposition, ça change tout. Un mot inséré dans une règle de droit, un adjectif, ça va ajouter une intensité à la règle, ça va au contraire faire reculer l'intensité de la règle, etc. Si vous ne faites pas attention à ce que vous lisez, vous vous planterez. C'est un conseil qui n'a rien de condescendant du tout, parce que la formule est un peu... Mais apprenez à lire au sens... Apprenez à lire chaque mot. En droit particulièrement, on aime bien les petites clés de compréhension un peu techniques et qui parfois se voient pas bien. C'est pour ça aussi que plus vous avancerez, plus ce sera passionnant. Parce que vous allez rentrer dans les méandres de la technique de « tiens, là, on a ajouté entre la version de l'article de 2015 et celle de 2024, il y a un morceau qui s'est ajouté dans la disposition, qu'est-ce que ça change, etc. » Lisez. Faites gaffe au sens de l'ensemble des mots et donc évidemment, pour distinguer la règle impérative de la règle supplétive, regardez ce que je vous dis le législateur. Elle est simple, la question à se poser en fait. Est-ce qu'il me laisse une marge de manœuvre dans la disposition ou pas? Si vous retirez là sur 1651 le premier pan de l'article, ça devient une règle impérative. On s'arrête là et on fait la sanction après les 10 minutes de pause. À tout de suite.